Voilà, est-ce que vous êtes dans la joie, mes frères et sœurs? Oui? Est-ce que vous êtes toujours dans la joie? Ah, c'est moins. Allez, on va lire un premier verset ensemble dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Actes des Apôtres au chapitre 16, verset 25. J'ai noté beaucoup de versets, j'aimerais bien qu'on puisse y aller souvent ensemble. Soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Et puis ce que je citerai, j'essaierai de ne pas oublier de vous noter la référence, puisque je sais que beaucoup aiment bien noter et relire chez eux, c'est une bonne chose. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Amen. On peut lire le verset suivant. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils priaient et ils chantaient des louanges, les louanges de Dieu. Ce n'est pas extraordinaire, en tout temps et en toutes circonstances. Beaucoup de gens autour de nous, et je peux les comprendre, refusent d'écouter les informations à la télévision ou à la radio, car c'est toujours une énumération de tous les malheurs du monde. C'est vraiment la sinistrose. Rien que ce qu'on a appris hier sur le dénouement, en fait, ce qui paraît être le dénouement de cette famille qui avait disparu et les circonstances qui nous ont été en tout cas révélées, c'est atroce. C'est atroce. C'est dommage d'ailleurs que l'accent soit mis que sur toutes ces catastrophes en tout genre qu'on peut connaître, parce qu'il y a même une forme de fascination malsaine du malheur des autres qui est exposée comme cela. Dans tous les cas, avec ou sans les médias, nous devons reconnaître que le monde dans lequel nous vivons, et peut-être même dans nos propres vies, nous côtoyons beaucoup, beaucoup de souffrances. Et je crois qu'il y a un défi pour le croyant, un défi grand, de donner envie aux gens qui nous entourent de tendre l'oreille, comme ils ont fait dans la prison. C'est la transcription par Louis-Vande qui utilise cette expression, écouter, tendre l'oreille. Ils ont tendu l'oreille pour entendre. Que nous puissions, au milieu de ce marasme dans lequel nous vivons, donner envie aux gens qui nous entourent de tendre l'oreille dans notre direction pour entendre quoi? Pour entendre une autre mélodie. La mélodie de la joie authentique de l'enfant de Dieu dans quelques circonstances ou situations qu'il se trouve au milieu, dans la prison, dans une circonstance terrible où on ne les aurait peut-être même pas blâmés quelque part de se plaindre un petit peu de leur situation. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils chantaient et louaient le Seigneur. Et il y a une pensée très forte que le Seigneur a mise sur mon cœur, et pourquoi en fait nous partageons ce sujet ce soir, c'est parce que j'ai pensé à un paradoxe qui serait absolument fou. Si nous pouvions imaginer que nos frères et sœurs pour lesquels nous prions dans les nations persécutées pouvaient manifester de la joie au milieu de circonstances terribles qu'ils sont en train de vivre, et nous qui sommes là en train de prier pour que Dieu leur donne la joie dans leurs épreuves, et que eux peut-être de leur côté seraient en train de prier pour nous qui ne connaissons pas la persécution, qui ne cause. Et vous savez que quelque part parfois ça nous amène dans une suffisance, parfois nous ne considérons pas la grâce que nous avons. Et qu'eux prient pour que nous soyons, nous aussi, dans la joie. Quelle prière le Seigneur exaucerait-il dans une telle circonstance? Lisez avec moi ce verset dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez, quand vous le pouvez, non ? Ça ne vous plaît pas ? Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et on peut dire Amen, c'est la parole du Seigneur, une exhortation en tout cas à être toujours joyeux. Et ça sera le titre de notre message ce soir, soyez toujours joyeux. Ce que nous venons de lire ne peut se comprendre et surtout se vivre que dans le cadre d'une communion personnelle avec le Seigneur. Ça ne peut se comprendre que dans le cadre d'une communion entre la brebis et son berger. C'est dans ce cadre-là que nous sommes encouragés à vivre continuellement dans la joie, avec un esprit de prière et aussi cet esprit de reconnaissance. J'ai beaucoup apprécié dans les prières ce soir, beaucoup de louanges, de remerciements. En toutes circonstances, en toutes situations, nous devons rendre grâce au Seigneur, que ce soit dans l'Assemblée des Saints, où, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est beaucoup plus facile d'exprimer notre joie. Mais dans la prison, dans les combats, dans les épreuves, c'est vrai que c'est plus difficile. Mais la parole de Dieu, je crois, veut nous encourager ce soir à considérer que nous devons être joyeux en toutes circonstances, en tout temps. En tout cas, la parole de Dieu nous exhorte dans ce sens, soyez toujours joyeux. Regardez dans Philippiens, au chapitre 4. Et le verset 4, ce sont des versets que l'on connaît bien. C'est pas vrai ? C'est la première fois ? Non, on les connaît bien. Mais c'est tellement important. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous, dit la version Semeur. Oui, je le répète, la parole est insistante, je le répète, soyez dans la joie. Alléluia. Oui, c'est vrai qu'il y a, j'ai compris, quand je vous demandais si vous étiez dans la joie, on est vraiment heureux de se retrouver ensemble, et il y a la joie à vivre ces moments. Mais il y a une joie authentique aussi qui doit se manifester à chaque instant de notre vie. Et c'est ce que je voudrais partager avec l'aide du Seigneur ce soir. Peut-être dans cette première partie, considérer que Dieu veut véritablement notre bonheur. Ça, c'est quelque chose que je voulais redire et que je voudrais repartager avec vous. Parce que Dieu, son intention, du début de la création jusqu'à la fin, jusque dans l'éternité, Dieu veut notre bonheur. Depuis le commencement et encore aujourd'hui, il s'emploie à favoriser notre bonheur. Et nous devons le savoir, nous devons nous être imprégnés de cela. Si on regarde déjà dans le jardin d'Éden, Éden signifie délice. Dans le jardin d'Éden, l'homme a été placé dans ce lieu particulier et tout a été fait pour qu'il soit heureux, pleinement heureux. Dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme avaient une communion constante avec leur Dieu. Extraordinaire. Des temps où ils pouvaient communiquer, des temps où ils pouvaient être dans sa présence. Il est dit que l'homme avait domination sur toutes les créatures. L'homme ne connaissait pas le péché, ne connaissait pas toutes les violences que nous connaissons sur la terre. Je pourrais dire qu'il y avait une parfaite harmonie entre la création, toutes les créatures et le Créateur. On peut dire ceci, c'est que Adam et Ève avaient la vie la plus merveilleuse qu'aucun homme et qu'aucune femme ne connaîtra sur la terre ici-bas après eux. Des conditions parfaites. Lorsqu'on va un petit peu plus loin, on voit que malgré le péché, malgré tous les désordres qui sont entrés donc dans le cœur de l'homme, on voit que l'intention de Dieu, c'est encore de conduire les hommes vers le chemin du bonheur. Et lorsque le Seigneur va choisir un peuple, le peuple d'Israël, voici ce qu'il est écrit. « Obéis à ces lois et à ces commandements que je te transmets aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu vives de nombreux jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour toujours. Obéis. Regarde les règles que je te donne pour que tu puisses vivre dans le bonheur de Deutéronome 4 et le verset 40. » Si on va un peu plus loin dans la Bible, on voit que le Seigneur Jésus lui-même, eh bien, commence ainsi toutes les exhortations, vous savez, de ce fameux sermon sur la montagne qu'on a appelé les béatitudes. Le mot béatitude signifie bonheur. Il commence toutes ces exhortations ainsi, heureux, heureux. Dieu veut notre bonheur. Puis j'irai un petit peu plus loin en regardant dans ce que le Seigneur a préparé pour celles et ceux qu'il aime, pour celles et ceux qui marchent avec lui. C'est dans la nouvelle création. Jusqu'au bout, je vous l'ai dit, Dieu prépare tout pour que nous soyons véritablement heureux. Il est écrit dans l'Apocalypse ceci, « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis d'une voix forte, venant du trône, qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois définitivement disparu. » Apocalypse 21, verset 1 au verset 4, et on peut dire Amen. Il essuiera toutes larmes. Dieu veut notre bonheur. Du Jardin d'Éden jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, nous voyons que l'action de Dieu, de mille et une manières, est là pour que nous vivions heureux. Alléluia. Je voudrais que, si quelqu'un ne réalise pas ça véritablement encore, parce que c'est vrai qu'il y a ici-bas tellement de souffrance et éloigné de Dieu, c'est vrai qu'on ne peut pas vivre le véritable bonheur et la véritable paix. Mais Dieu, et ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu veut notre bonheur. Il veut que nous soyons toujours heureux. Et même j'irai plus loin, faisant référence à ce que je viens de vous lire dans l'Apocalypse, il veut que nous soyons éternellement heureux. Dans la joie. Alléluia. Toujours joyeux, même plus, éternellement joyeux dans sa présence. Or voici le secret d'une vie chrétienne joyeuse, c'est d'avoir constamment en nous celui qui est la source de la joie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le deuxième point que je voudrais partager avec vous. Oui, Dieu veut notre bonheur. Et pour que nous vivions véritablement dans la joie tous les jours, tous les instants de notre vie, il faut que Christ soit considéré comme la source de notre joie, non seulement considéré, mais qu'il soit dans nos vies. Nous l'avons rappelé encore ce soir, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il a fait son habitation en nous depuis la nouvelle naissance. Nous sommes une nouvelle création. On va dire que certaines conditions qui étaient dans le Jardin d'Éden, eh bien, nous sont quelque part restaurées, une communion à nouveau possible. Mais nous vivons encore dans un monde de péché. Il y a tellement de souffrances autour de nous. Nous ne sommes pas encore dans les conditions idéales que nous connaîtrons dans le ciel et dans la gloire céleste. Oui, Jésus-Christ est la source de la joie. Alors disons-le clairement, l'apôtre Paul, qui nous encourage à être toujours joyeux, comme nous l'avons lu tout à l'heure, est un homme qui a connu aussi beaucoup de tribulations et beaucoup de souffrances. Alors on va le lire ensemble dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. De Corinthiens 11, verset 23, « Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en termes extravagants, je le suis plus encore par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves et en péril de la part des brigands. » En péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et on va lire juste un petit peu avant, au chapitre 6 de Corinthiens 6, et le verset 10, nous avons été comme attristés et nous sommes toujours joyeux. Comme attristés et nous sommes toujours joyeux. Je voulais relire un petit peu les circonstances des souffrances, en tout cas des luttes que l'apôtre Paul a connues, parce que quand il nous dit d'être toujours joyeux et que dans certaines circonstances, eh bien, il a appris lui aussi, comme nous l'avons lu d'ailleurs dans ce premier verset tout à l'heure, au milieu de la prison, il a appris aussi à être et à vivre cette joie dans des moments les plus, j'allais dire, quand on voit tout ce qu'on a lu, dans des moments les plus extrêmes de sa vie. Pourquoi je vous l'ai lu ? Pour qu'on puisse réaliser que la joie véritable dont nous parlons ce soir est possible en tout moment, et en toutes circonstances. C'est vrai qu'il y a des situations pénibles, et je parlais tout à l'heure de ce qu'on peut entendre dans le monde, mais dans nos familles, dans tout ce qui peut... Ça nous touche véritablement dans notre cœur, et il y a de quoi être perturbé parfois, et d'être ébranlé. Mais c'est vrai qu'il est important de puiser en Jésus-Christ la source de la joie nécessaire pour continuer d'aller de l'avant. La joie, c'est vrai que c'est un sentiment agréable que nous connaissons déjà dans ce monde. C'est vrai que déjà bébé, lorsqu'il y a ce petit biberon qu'on attend avec impatience qui arrive, il y a tous ces plaisirs de la vie. Lorsque vous arrivez grand, vous réussissez un examen, un diplôme, voilà, vous devenez parent, il y a des enfants, petits-enfants plus tard. Ces joies, on les connaît dans la vie. Mais la joie dont nous parlons ce soir, eh bien, on peut l'assimiler très bien à cette paix que Dieu nous donne, cette joie, c'est la joie qui vient de Jésus-Christ et nulle part d'ailleurs. La joie qui vient de Christ qui est la source de la joie. Nous devons être imprégnés de cette pensée. Jésus, la source de la joie. À sa naissance, il est dit ceci, on va le lire ensemble dans Luc chapitre 2, verset 10. Regardez. Luc chapitre 2, verset 10. C'est lorsque les anges s'approchent des bergers. Il est dit ceci, Luc chapitre 2, verset 10. « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Version Semeur, « d'une, le sujet d'une très grande joie. » Christ, la source, on peut dire, la source de la joie. Regardez dans Luc au chapitre 4, ce sont des versets que nous connaissons bien aussi, mais c'est le témoignage que Jésus lui donne de lui-même en définitive. Luc chapitre 4 et au verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus, en ouvrant ce livre, fait référence à un texte qu'on pourrait lire ensemble rapidement dans Ésaïe au chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. J'aurais pu lire directement ce texte, mais je voulais faire le lien avec ce texte que nous connaissons plus souvent. Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Amen. Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Jésus est la source de la joie. C'est vrai que Jésus a connu beaucoup de souffrances. La Bible nous le révèle. Mais je considère tout le ministère de Jésus comme un ministère de joie, parce que partout où Jésus allait, il apportait véritablement cette huile de joie selon cette prophétie-ci d'Ésaïe. Et c'est vrai que là, on multiplierait les exemples, mais c'est extraordinaire de voir comment, ne serait-ce que la présence du Seigneur Jésus pouvait transcender beaucoup de situations. On regarde par exemple juste l'enthousiasme de la foule lorsque Jésus est entré à Jérusalem. Il est écrit ceci, comme il s'approchait de Jérusalem en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Dans Luc chapitre 19, verset 37. Et il nous est dit aussi que le jour de l'ascension, il est écrit ceci, « Pendant qu'il les bénissait, il les quitta, il fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. » Le cœur rempli de joie. Il était parti pourtant, et ils étaient encore là, le cœur rempli de joie. Dans Luc 24, verset 51. On peut dire que cette huile de joie, au lieu du deuil, tel que nous voulons le lire dans le prophète Ésaïe, elle prend véritablement tout son sens, par exemple, dans l'expérience de la veuve de Naïn. Vous savez, cette femme, cette veuve qui avait perdu son fils unique, il nous est dit que le cortège du Seigneur Jésus va rencontrer ce cortège de la mort. Et quand on voit comment le Seigneur Jésus a accompli ce miracle extraordinaire, nous voyons véritablement qu'il est porteur de la joie. Et tout au long de son ministère, je repensais tout à l'heure aussi à cette rencontre avec la femme samaritaine, mais c'est impressionnant de voir toute la pédagogie du Seigneur, comment il s'approche, les mots qu'il s'est trouvés, la connaissance qu'il a, c'est vrai, dans le cœur des hommes et des femmes, mais de voir comment il a porté, comment les gens pouvaient rayonner rien que de la présence des quelques instants qu'ils avaient passés avec le Seigneur Jésus. Nous voyons Jésus participer au repas. Souvent, les repas, vous savez, c'est des moments de joie. Vous savez, quand on se retrouve en famille, ce sont aussi des moments de fête. Il était là, parmi le peuple, par exemple, lors de son premier miracle à Cana. C'était les noces de Cana, il était là, dans ces temps de festivité. Notons également ceci, c'est que la comparaison la plus fréquente du royaume des cieux dans les évangiles, c'est celle d'un grand festin. Souvent, les paraboles sont autour d'un grand festin, de ces festins de noces dont il est fait souvent référence. Jésus n'ignore rien de nos combats et de nos luttes, de nos souffrances. Et dans les moments qui ont précédé, vous savez, l'arrestation de Jésus, alors que le Seigneur savait que les disciples allaient être dans une grande angoisse, qu'ils allaient commettre des moments terribles aussi, que la peur allait les envahir, eh bien Jésus leur a parlé d'une manière tout à fait particulière de la joie réelle et profonde que les disciples pourraient trouver en lui, même au travers de ces moments tragiques. Et je voudrais les lire avec vous dans Jean au chapitre 16. Jean chapitre 16, parce que c'est vrai, quand on parle de la joie, de suite on pense à ces moments effectivement tristes de nos vies, où cette exhortation « soyez toujours joyeux », ça nous interpelle pour ces moments où c'est plus compliqué en tout cas à vivre, et pour que nous soyons des témoins vivants à la gloire de Dieu, nous devons être encouragés dans ce sens qu'il y a ces moments terribles, mais où Jésus peut nous aider à transcender. Il est dit ceci, « Encore un peu de temps, Jean 16, 16, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père. » Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Mais que signifie ce qu'il nous dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, et parce que je vais au Père ?» Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps ?» Nous ne savons pas de quoi il parle. Verset 19, Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Dieu qui veut véritablement notre bonheur, Dieu veut qu'en Jésus, nous trouvions la joie parfaite, complète, toute suffisante pour nos vies, quelles que soient les situations que nous pouvons vivre. Combien d'hommes et de femmes sont repartis, bouleversés, guéris, sauvés, transformés pour avoir été un instant avec Jésus-Christ, parfois que quelques minutes. Et nous qui jouissons de la présence continuelle de Jésus dans notre vie, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, il est avec nous, à combien plus forte raison. Nous devons vivre cette exhortation d'être continuellement dans la joie. Alléluia. Je voudrais terminer par cette troisième partie. Je vous ai parlé, je vous ai dit que Dieu veut notre bonheur. Je vous ai dit que c'était Christ qui était véritablement la source de la joie. Et c'est important de l'avoir au centre de notre vie pour que toute cette joie véritable s'exprime. Je voudrais juste voir en troisième partie quelques sujets de joie. C'est vrai que les sujets de joie, ils sont illimités. Et on pourrait dire, comme le psalmiste, « Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. » Dans le psaume 126, verset 3. Mais on peut décrire quelques sujets de joie particuliers, on en parle souvent, mais je voulais le redire ce soir encore. Il y a vraiment en premier la joie du salut. Je dirais que malgré toutes les joies que le Seigneur nous permet de vivre, il n'y a rien de commun à la joie du salut. Et c'est David qui, à un certain moment donné, avait perdu cette joie, s'est exprimé ainsi, « Rends-moi la joie, rends-moi la joie du salut » dans le psaume 51, verset 12, il est écrit ceci, vous savez, lorsque le Seigneur Jésus a envoyé les disciples, et les disciples se sont réjouis de ce que même les démons étaient soumis, il est écrit ceci, « Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. » C'est ça qui doit réjouir notre cœur, un sujet de joie extraordinaire dans Luc chapitre 10, verset 20. On pourrait lire un verset, regardez avec moi, dans 1 Pierre au chapitre 1er, sur ce thème de la joie du salut, 1 Pierre chapitre 1er, verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer dans la version se meurt parce que vous obtenez le salut qui est en fait le but de votre foi. Vous savez, l'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés en espérance et il y a cette joie véritable et glorieuse dans notre vie, la joie du salut. On est juste à côté de l'épître de Jacques, si vous voulez le regarder, juste en tournant quelques pages à gauche. Regardez le chapitre 1er. Un autre sujet de joie, c'est la joie dans les épreuves. Ça, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, la Bible en parle largement. Jacques, chapitre 1er, verset 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant pardon, que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Les temps d'épreuve et de difficulté, on le voit aussi au verset 12, il est écrit ceci, « Heureux, heureux, est heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Vous savez, soit nous pouvons nous servir des temps d'épreuve pour nous endurcir, pour nous rebeller, pour renoncer, peut-être parfois avec fatalisme, nous pouvons aussi nous apitoyer sur notre sort. Voilà un peu le lot de certains au milieu de l'épreuve. Mais Jacques propose une voie meilleure, une voie excellente. C'est celle de se servir de nos épreuves comme un sujet de réjouissance. Attention, pas de plaisir dans la souffrance, d'accord ? Le masochisme chrétien, ça n'existe pas. Cela signifie tout simplement que nous gardons confiance en Dieu, quelles que soient les situations. Nous savons qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Et il saura nous permettre, par ces circonstances, peut-être, d'affermir notre foi, comme cela est écrit, en tout cas de développer le caractère chrétien qui le glorifiera pleinement. C'est dans ce sens que nous pouvons les considérer comme un sujet de joie. Précisez aussi que cela n'est possible que par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Incapables par nous-mêmes, ça c'est rien que de lire le texte, alors le vivre, mais par l'action puissante du Saint-Esprit dans nos vies. L'apôtre Paul dit ceci, « Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. » La joie que produit le Saint-Esprit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 6. D'autres sujets de joie, ils sont innombrables, mais rappelez aussi quand même que la joie, c'est le fruit de l'Esprit. Il est écrit dans l'Épître aux Galates, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la joie, le fruit de l'Esprit dans Galates 5, verset 22. On peut le dire simplement, mais en tout cas clairement, que le cœur du chrétien heureux de la présence de Jésus dans sa vie va se manifester inévitablement par un comportement joyeux, comme étant le fruit de l'Esprit qui se manifeste dans sa vie. D'autres sujets, j'ai noté, bien sûr, l'attente glorieuse de son retour, quelle joie. Tout à l'heure, dans l'Apocalypse, je vous ai lu ce verset où il est décrit que l'épouse, elle attend le retour de l'époux. Quelle joie dans notre cœur de ce temps où nous allons être enfin réunis pour l'éternité. C'est Pierre qui dit ceci, cette réjouissance, on pourrait le lire, on est juste à côté. Regardez, 1 Pierre chapitre 1er, on revient sur le chapitre 1er où on était tout à l'heure. Regardez au verset 1er, il est dit ceci. On peut lire à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il nous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il s'agit du retour du Seigneur, de son avènement. Et début du verset 6, il est dit, c'est là ce qui fait votre joie. Amen. Beaucoup de sujets, ils sont illimités. Jésus, la source de la joie. Je voudrais conclure par ces mots. C'est David qui dit ceci, quand on tourne vers lui les regards, on est... Vous le croyez ça ? Ouais. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Il est dit ceci, le visage ne se couvre pas de honte dans le psaume 34, verset 5. Que de temps béni dans la présence du Sauveur, où notre visage s'est mis à rayonner, de ce contact enrichissant pour chacun d'entre nous. Lorsque les disciples ont retrouvé le Seigneur Jésus après la résurrection, il est écrit ceci, Jésus leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur dans Jean au chapitre 20 et au verset 19. Dire ceci également en conclusion, c'est que autant les informations peuvent nous saturer notre esprit de mauvaises nouvelles, avec tout le lot de pessimisme et de fatalisme que cela peut engendrer dans notre cœur, autant les moments de présence avec Jésus nous permettent aussi de saturer notre esprit de la bonne nouvelle de l'Évangile, avec tout son lot, je dirais aussi, d'enthousiasme que cela peut générer dans notre cœur. Oui, avec Jésus dans notre vie, oui, avec Jésus au centre de notre vie, et bien sûr, par l'action bienfaisante de l'Esprit-Saint dans nos vies, il est tout à fait possible, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une illusion. Il est tout à fait possible de vivre cette exhortation. Soyez toujours dans la joie. Je le crois. Je le crois véritablement. Ainsi, ce qui nous entoure, comme ces prisonniers dans la prison où étaient Paul et Silas, verront la joie sur nos visages. Peut-être entendront-ils aussi un petit cantique que nous exprimerons dans la joie que nous avons de servir le Seigneur. En tout cas, ils pourront voir au milieu de ce chaos, parce qu'on ne peut pas appeler autre chose que tout ce que nous vivons dans ce monde, au milieu de ce chaos, ils verront une autre mélodie, ils verront le chant joyeux de celles et ceux qui appartiennent au Seigneur. Je termine par la lecture de ce proverbe. Un cœur joyeux rend le visage aimable. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. L'homme intelligent cherche toujours à apprendre, alors que les sots se repaissent de sottises. Pour l'affligé, tous les jours sont mauvais. Mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. Amen. Proverbe 15, verset 13 au verset 15. Prions le Seigneur un instant, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, tu es venu dans ce monde pour nous apporter le salut. Tu es venu, Seigneur, comme nous l'avons rappelé dans ces chants, pour donner ta vie afin que nous puissions être sauvés. Et c'est vrai que nous voulons te bénir de tout notre cœur pour cette grâce ineffable. Merci aussi pour cette joie que nous avons chaque jour de pouvoir nous approcher de toi. Seigneur, merci. Cette joie inexprimable qu'il y a au fond de notre cœur. Nous ne voulons pas la garder juste au-dedans de nous. Nous ne voulons pas qu'elle soit comme épisodique dans notre vie. Nous ne voulons pas que ce soit juste des instants où nous nous sentons joyeux pour X raisons de notre vie. Mais nous voudrions, Seigneur, que tu nous aides par l'action de ton esprit à être joyeux en tout temps, en toutes circonstances. Que ceux qui nous voient vivre, déjà les membres de notre famille, les collègues, nos collègues de travail, Seigneur, ceux que nous côtoyons dans ce monde, Seigneur, qu'ils puissent discerner, que ce soit par nos paroles, mais que nos attitudes, Seigneur, qu'ils puissent discerner la joie véritable et authentique qu'il y a dans nos cœurs. Malgré les troubles, c'est vrai, qui sont évidents autour de nous, malgré peut-être les tempêtes que nous traversons dans notre vie, nous prenons la résolution, Seigneur, de nous attendre à l'assistance de ton Saint-Esprit pour qu'en toutes circonstances, oui, nous puissions être véritablement dans la joie comme toi tu as été dans la joie, Seigneur, dans toutes ces circonstances difficiles. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu ne nous donnes pas une illusion, mais si tu nous encourages encore ce soir à vivre cela, eh bien, c'est peut-être parce que nous avons besoin de considérer, c'est vrai, nos frères et sœurs qui, dans les pays persécutés, peut-être parfois, eux vivent véritablement dans la joie. Et alors que nous vivons dans la paix, alors que nous ne vivons pas la persécution, à combien plus forte raison, Seigneur, nous devons être aussi joyeux, honorant ta parole et l'exhortation que tu laisses sur nos cœurs ce soir. Merci pour ta fidélité pour chacun d'entre nous. Nous te bénissons de tout notre cœur. Amen.